VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. En Gambie, les électeurs se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour choisir leur président. Trois candidats briguent la magistrature suprême, notamment le président sortant Yahya Jammeh. Le point avec Eddy Issango.
Le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, est candidat à sa propre succession. En face, il y a Adama Barrow, patron d'agence immobilière qui est soutenu par une coalition des partis d'opposition, et Mama Kandé, un transfuge du parti au pouvoir qui a fondé une nouvelle formation politique. Le scrutin est à un tour et chaque candidat s'est dit certain de remporter la victoire. Les réseaux Internet est coupé depuis hier, les appels internationaux et SMS vers la Guinée ne passent plus. Mais les communications à l'intérieur du pays fonctionnent. Quelques 890 électeurs sur près de 2 millions d'habitants étaient appelés aux urnes dans un système unique au monde. Le vote s'est fait par une bille à déposer dans un des trois bidons des couleurs différentes. Les verts pour Jammeh, les gris pour Barrow et les violets pour Kandé. À Banjul, la capitale, il y a eu des longues files d'attente devant certains bureaux de vote. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit de jeudi à vendredi. Les gouvernements ont interdit toute manifestation après les scrutins qui s'est déroulé sous haute présence policière.
890 000 électeurs sont donc inscrits sur les listes électorales en Gambie. Au Mali, affrontement entre le groupe armé pro-gouvernemental Gatia et la CMA, les ex-rebelles Touareg. Les combats qui ont fait des morts et des blessés se sont déroulés dans la localité d'Intilit, région de Gao, dans le nord. Mais malgré la rivalité entre le Gatia et la CMA, le gouvernement malien continue de mener des actions dans le cadre de l'application de l'accord de paix pour répondre aux préoccupations des populations de la région. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La guerre CMA-Gatia est loin de connaître son épilogue. Actuellement, les frères ennemis s'affrontent dans la région de Gao. Ce jeudi matin vers 9h, un convoi de la CMA était face au Gatia, dans la localité d'Intelit, région de Gao, plus précisément aux alentours du petit village de Marcy. Les combats ont duré plus d'une heure. Le bilan est de 2 morts, tous de la CMA, dont le sergent déserteur de l'armée malienne, Marouchat, et un certain Itou. Le Gatia a pu faire prisonnier 15 combattants de la CMA et récupérer 4 véhicules. Côté Gatia, il y a eu 2 blessés graves. Avant cette attaque, dans la même région, entre 11h et midi hier, un véhicule du Gatia contenant 6 personnes, dont une femme, a sauté sur une mine. 5 personnes ont perdu la vie dans cette attaque, y compris l'unique dame. Il y a eu un seul survivant qui était encore sous le choc de l'attaque. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, un tribunal a refusé une nouvelle fois aujourd'hui d'accorder la liberté sous caution au militant indépendantiste Biafré Nnamdi Kanu, ainsi qu'à 3 autres prévenus, accusés de trahison et détenus depuis plus d'un an. « Je refuse la libération sous caution des requérants », a déclaré la juge de la Haute Cour fédérale à Abuja, Binta Niako, ordonnant leur maintien en détention en soulignant que les crimes pour lesquels les accusés sont jugés sont très graves et passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité s'ils sont reconnus coupables. C'est la 4e demande de libération sous caution du militant indépendantiste rejetée par un tribunal. Nnamdi Kanu, dont l'arrestation en octobre 2015 avait provoqué une vague de protestations dans le sud-est du Nigeria, plaide non coupable des faits qui lui sont reprochés. Au Tchad, le collectif Justice ou Rien entend profiter du jour anniversaire de l'accession au pouvoir du président Idriss Déby pour exposer ce qu'il appelle la dictature du régime. Le porte-parole de cette coalition, Eric Hervé Pando, entend mobiliser les Tchadiens.
On nous a fait comprendre que la date du 1er décembre est l'avènement de la démocratie. On se retrouve avec le contraire, c'est-à-dire c'est l'étranglement de la démocratie dont on nous parlait dès les premières heures de l'avènement du MPS au pouvoir. Pas la démocratie. On nous a parlé de la liberté. On se rend compte qu'il n'y a pas la liberté d'expression. D'autres actions de grande envergure vont suivre encore si jamais le problème de nos compatriotes ne sont pas solutionnés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Notre correspondant au Congo, Brazzaville, Nguela Ngoussou, nous signale que les personnes vivant avec le VIH dans le pays manquent de médicaments. Les malades vivent de longues périodes de rupture des ARV. Et si certains patients peuvent se partager le traitement, d'autres voient leur état de santé se détériorer. Les autorités ont sanctionné 5 directeurs généraux censés assurer la fourniture des ARV de Brazzaville. Le reportage de Nguela Ngoussou.
Je m'occupe de PTME, donc il y a plein de femmes qui viennent pour se plaindre. Moi, je suis en gestation, j'ai pas de médicaments, je sais pas comment faire. On est obligé de remonter le moral à ces personnes-là parce qu'il n'y a pas de médicaments.
Ce cri de désespoir de femmes enceintes vivant avec le VIH-Sida aurait aussi pu être lancé par les quelques 14 000 personnes sous traitement au Congo. Les centres de traitement manquent des médicaments. Les malades du Sida sont obligés de se partager leur propre traitement, au risque même de leur vie. Témoignage de Irène Maungu, une mère séropositive.
Entre nous les malades, on se comprend, on peut partager le traitement. Et la personne, je ne peux pas la dire que le traitement n'est pas là, il faut supporter parce qu'en elle, ça joue beaucoup déjà psychologiquement. Elle est habituée parce qu'on l'a dit que si tu prends le traitement, tu vivras longtemps. Mais quand on la donne plus le traitement, c'est difficile pour la personne. Elle trouve qu'on dirait que la mort est là seulement derrière la maison. Il y a des impacts sur la peau, il y a des impacts dans le corps, le moral. La personne est affectée. Donc c'est ce qui nous fait vraiment très mal. C'est pour cela on veut à ce que le traitement puisse redevenir comme avant.
Écœurée par cette rupture récurrente des ARV au Congo, 28 associations des séropositives regroupées dans un réseau national, le RENAPC, manifestent depuis quelques jours. Elles réclament la disponibilité des ARV au moins pour les 6 mois à venir. Jean-Pierre Maungu est le directeur exécutif du RENAPC.
6 mois de stock des ARV en stock initial, 3 mois de stock de sécurité et tous les 3 mois qu'on lance une commande parce que ces produits-là se fabriquent par commande. Et comme une crise de confiance entre les malades et les centres de prise en charge. Parce que vous arrivez, il n'y a pas le médicament.
Dans le pays, d'autres voix s'élèvent pour dénoncer cette situation. Inès Mvukani est responsable juridique du comptoir juridique junior du Congo.
Je pense que là, c'est une situation grave qui nécessite une réflexion de chaque partie engagée justement dans le processus de distribution et d'obtention des ARV en vue de permettre une disponibilité permanente des ARV en République du Congo.
Les autorités ont opté pour l'économie de la parole. La coordination du Conseil national de lutte contre le sida a quasiment reçu des consignes fermes du ministère de la Santé pour ne pas s'exprimer sur la question. Aux dernières nouvelles, le gouvernement a finalement lancé un appel d'offres pour l'acquisition de quelques 10 000 lots des ARV et autres réactifs. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Politique aux États-Unis maintenant, Donald Trump, futur locataire de la Maison-Blanche, débute aujourd'hui une tournée de la victoire dans les États industriels qui lui ont permis de gagner la présidentielle du 8 novembre. Le président élu se rendra d'abord dans l'État d'Indiana pour visiter une usine qui fabrique des climatiseurs. Eric Manirakiza.
Donald Trump a fait de cette usine un symbole de la politique anti-délocalisation qu'il entend mener. Il affirme avoir conclu un accord pour sauver 1 000 emplois que l'usine voulait déplacer au Mexique. Un communiqué de l'entreprise précise plutôt que sa décision s'est fondée sur les incitations proposées par l'État de l'Indiana. La visite dans l'Indiana est la première étape de M. Trump, qui tiendra également un meeting ce soir à Cincinnati, dans l'Ohio. La visite dans l'Indiana est la première étape de M. Trump, qui tiendra également un meeting ce soir à Cincinnati, dans l'Ohio. Le futur président américain a déjà nommé son équipe économique, un banquier de Wall Street, Steven Mnuchin, comme secrétaire au Trésor et un autre milliardaire, Wilbur Ross, au commerce. Leur mission, appliquer sa promesse de reconsidérer les accords de libre-échange signés par les États-Unis et de préserver les emplois américains.
Et pour terminer, Cuba, le convoi de l'urne funéraire de Fidel Castro continue sa route en direction de Santiago de Cuba, la grande métropole du sud du pays, où les restes de l'ex-président décédé à 90 ans seront enterrés. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.